sans aucune chaleur ou bienveillance ou compassion, la pratique méditative de pleine conscience peut avoir une espèce de sécheresse et on peut revenir dans cette logique de performance et de dureté envers soi-même si on ne se donne pas les espaces durant lesquels on cultive cette qualité d'attitude-là. Peut-être aussi une tendance chez certaines personnes qui méditent beaucoup et qui trouvent du plaisir à se déconnecter des autres, en fait, être bien dans leur bulle, et c'est un type de méditation qui nous reconnecte avec les autres. Et je pense que pour certaines personnes, c'est vraiment nécessaire. Dans le milieu spirituel, ce risque de cultiver une forme d'indifférence pour les gens qui méditent beaucoup, qui sont des pratiquants par exemple dans un cadre bouddhiste, elle est vraiment réelle. Un enseignant de méditation anglais, bouddhiste que j'aime beaucoup, me racontait qu'il était dans son centre de méditation en Birmanie et qu'il était dans la chambre d'un des moines qu'il connaissait là-bas. Et que dans la chambre, il y avait un chat qui courait, qui jouait avec une souris, comme les chats jouent avec les souris. Et il a dit à son ami moine, mais tu fais rien, tu n'interviens pas. Et le moine lui a répondu, karma de souris, karma de chat. Donc, dans les contextes laïques et spirituels, je pense que l'absence complète de cette notion de cultiver ces émotions chaleureuses, ça induit un manque dans la pratique méditative. Évidemment, si on ne cultive que bienveillance, compassion, sans aucun intérêt pour la méditation de pleine conscience, pour la qualité de l'attention, la stabilité de l'attention, il y a aussi, c'est aussi incomplet. On peut vivre une méditation merveilleuse de bienveillance, se sentir connecté et aimant le monde entier. Et quand on en sort, si le conjoint ou la conjointe a grillé la pizza, si le fils ou la fille a lâché le vase Ming par terre, on peut passer de la bienveillance à la colère absolue sans avoir la possibilité de prendre du recul, parce que pour prendre du recul, il faut cultiver aussi une forme d'attention fine à ce qui se passe en soi que la bienveillance ou la compassion n'apporte pas forcément. Donc c'est vraiment deux éléments qui pour moi se complètent. Besoin de cultiver une forme de lucidité, de stabilité d'esprit, et de colorer cette stabilité ou ce calme d'une notion de bienveillance envers soi-même et envers les autres. Alors pour vous faire les présentations avec les états d'esprit sur lesquels on va un petit peu méditer ce soir. Le contentement, c'est le sentiment de satisfaction qui nous vient quand on est focalisé sur ce qui va dans notre vie ou dans notre personne en ce moment. Quand on n'est pas en train de chercher ce qui ne va pas, mais qu'on prend simplement conscience de ce qu'il y a de satisfaisant. Quand on n'est pas non plus dans la comparaison entre notre situation actuelle et notre idéal imaginaire, dont on est naturellement extrêmement loin. Ça, c'est le contentement. La gratitude, c'est une forme de chaleur et de bienveillance qui apparaît quand on prend conscience de ce que d'autres personnes nous ont apporté. Là aussi, plutôt que de se focaliser sur leurs fautes et leurs insuffisances, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais c'est une émotion, un état d'esprit agréable qui apparaît quand on est en train de se focaliser sur ce que les autres personnes nous ont apporté de bon. Deux états très agréables pour la personne qui les sent. La bienveillance, c'est cet état d'esprit marqué par une intention bienveillante envers soi-même ou autrui. Et la compassion, j'en avais déjà parlé il y a longtemps, dans une soirée, c'est l'état de bienveillance, l'attitude bienveillante qui rencontre de la souffrance chez soi-même ou chez autrui. C'est comment cette intention bienveillante va réagir à la présence de souffrance. Ça implique de l'empathie pour la personne qui souffre et en même temps le souhait que la situation de cette personne s'améliore. C'est deux choses en même temps dans ce mode compassion. Donc c'est un mot, c'est un joli mot, mais c'est aussi un mot dans le contexte de la méditation qui est très précis, qui décrit un état d'esprit précis. L'intérêt de cette compassion-là, c'est que si on la cultive, c'est plus facile de la ressentir plutôt que les alternatives qui nous viennent souvent à l'esprit quand on est face à la souffrance de quelqu'un. Exemple. Tristesse et impuissance. Si vous regardez le téléjournal, ça vous arrive très probablement de ressentir cet état-là. Culpabilité, la culpabilité du pourquoi cette personne souffre-t-elle et pourquoi pas moi, la notion d'injustice où on peut se sentir coupable de ne pas avoir de problème, soi-même, ou ce problème-là. Très 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 souvent, quand on est face à la souffrance de quelqu'un, il y a une réaction d'indifférence qui est simplement une manière de se protéger justement de cette tristesse ou de ce sentiment d'impuissance. Et parfois, c'est terrible, mais c'est vrai, en apprenant la souffrance de quelqu'un, on a une forme de soulagement. Ouf, c'est pas moi. Qui vient d'une théorie complètement débile mais extrêmement courante, qu'il y a une somme donnée de souffrance dans le monde, et si quelqu'un a reçu un truc, c'est que c'est tombé à côté, c'est un peu comme la foudre. Ça va pas nous tomber dessus. C'est complètement idiot, mais je pense que ça nous est arrivé à tous à un moment ou à un autre d'avoir ces moments où, oui, on est désolé pour la personne, mais il y a aussi une forme de ouf, la foudre est tombée à côté. Donc la compassion, ce qu'elle a de fantastique, c'est que d'une part, c'est une émotion touchante, mais elle n'est pas désagréable ou nuisible pour nous-mêmes, et c'est probablement l'état d'esprit qui va le plus nous pousser à faire quelque chose en réponse à une souffrance qu'on perçoit. C'est une voie pour que notre empathie puisse s'exprimer d'une manière qui nous fasse du bien et qui potentiellement puisse aussi nous encourager à aider ou à être utile. La compassion pour soi, dont j'ai déjeuné, dîné et soupé pendant les quelques jours de cette formation, c'est pas mal aussi parce que là aussi il y a des alternatives. Quand on a conscience d'une souffrance en soi, très très souvent on va y réagir par de la honte parce qu'on estime qu'on aurait dû pouvoir éviter ce qu'on ressent et que c'est notre faute si on n'a pas été à la hauteur et que du coup on souffre, on se retrouve dans cette situation-là. Parfois on va aussi réagir par une forme d'anesthésie, par la nourriture, l'alcool, les écrans. Et là aussi, la compassion pour soi, ben, s'il faut définir la compassion pour soi d'une manière plus imagée, une manière que je trouvais intéressante de le faire, que le formateur nous avait donné, c'est dans ce qu'on ressent, cette autocompassion, c'est de la chaleur, une forme de chaleur, même une chaleur corporelle. Peut-être un geste qui pourrait être ça, qui pourrait être une manière, un geste qui évoque la compassion pour soi, l'envie que ça aille mieux. Et puis un bruit, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire de façon convaincante. Voilà. La compassion pour soi, ça ressemble à peu près à ça. Vous pouvez ajouter la petite caresse, peut-être sur l'épaule ou sur la main. Le bruit et cette impression de chaleur pour évoquer un petit peu à quoi ça ressemble. Et la chaleur, c'est pas un vain mot parce que il y a eu une étude sur la générosité et la compassion. Je sais plus exactement ce qu'on a mesuré, mais si je me rappelle bien, il y avait deux groupes et un groupe recevait un coussin chauffant froid, l'autre groupe recevait un coussin chauffant chaud qu'ils pouvaient garder contre eux, Et un peu plus tard, l'expérience, sans qu'ils le sachent, les mettait en position de choisir de donner ou de ne pas donner quelque chose à quelqu'un. Et ceux qui avaient le coussin chaud, vous l'aurez deviné, ont donné beaucoup plus volontiers, ont été beaucoup plus généreux, simplement parce qu'ils avaient ce coussin chauffant dans les mains. Il y a une idée de chaleur, en tout cas, on l'associe vraiment à cette sensation-là. C'est pour ça que je vous encourage à avoir des couvertures à portée de main. Je ris parce qu'on devait régulièrement ce que je ne vous ferai pas faire ce soir, émettre le bruit en groupe comme ça. On pourrait le faire. Et finalement, ça c'était la compassion. Il y a la joie empathique qui est aussi un de ces états qu'on cultive dans les méditations formelles. Et la joie empathique, c'est cet état de bienveillance qui rencontre le bonheur ou le succès chez quelqu'un d'autre. Ce qui est fascinant, c'est que dans la langue française et dans la langue anglaise, on n'a pas de mot pour cet état d'esprit-là. C'est un état intéressant parce qu'il démultiplie nos possibilités de ressentir du plaisir. En fait, toute personne autour de nous qui est heureuse, on peut potentiellement partager son bonheur, donc se sentir heureux de son bonheur. C'est sur papier, c'est merveilleux, mais on n'a pas de mot pour ça. Donc, la joie empathique, c'est le contraire de l'envie. C'est quand on réagit à l'annonce d'un succès ou d'un bonheur, plutôt qu'en se disant pourquoi pas moi, pas ah, mais c'est chouette, c'est merveilleux pour cette personne, et qu'on a ce plaisir de savoir que quelqu'un a du plaisir ou vit quelque chose d'agréable. Contentement, gratitude, bienveillance, compassion, joie, empathique. Alors, parmi les choses que j'ai entendues en réponse à ces méditations formelles, parfois il y a l'impression qu'on est, en les pratiquant, en train de nier la réalité des problèmes, qu'on se projette dans un monde de bisounours. Et ça peut être le cas, et c'est aussi pour ça que la méditation de bienveillance, de pleine conscience est utile, pour avoir cette lucidité sur ce qui se passe en nous, mais aussi la possibilité d'entrer en relation avec ce qu'on vit d'une façon bienveillante. Il y a aussi la question plus générale, pourquoi est-ce qu'on favoriserait certaines émotions, certains états d'esprit plutôt que d'autres, en fait? Pourquoi est-ce qu'on cultiverait ceux-là au travers de méditations formelles, alors que finalement toutes les émotions, y compris celles qu'on n'aime pas, ont leur rôle à jouer dans notre écosystème émotionnel? Et c'est vrai que toutes les émotions ont leur rôle à jouer, mais ce que ces états d'esprit-là ont de fantastique, c'est qu'ils sont agréables, durablement agréables, sans effet secondaire, et que si vous imaginez passer 24 heures dans la colère, 24 heures dans la honte, 24 heures dans l'anxiété, sans interruption, ou 24 heures dans le désir de nourriture, de sexe, de jeu, d'argent, c'est probablement assez rapidement profondément désagréable, alors que 24 heures de bienveillance ou de compassion, et de contentement, de gratitude, d'une part, on y survit sans finir en prison ou en hôpital psychiatrique, ce qui n'est pas forcément le cas avec les autres, et ça ne peut faire que du bien à soi-même, et peut-être même aux personnes autour de nous. Donc, si on considère que les émotions et les états d'esprit sont vraiment des choses qu'on peut choisir dans un menu de vivre, elles ont un grand avantage sur beaucoup d'autres, c'est que elles sont durablement agréables et il n'y a pas de gueule de bois. Une autre chose intéressante avec les méditations qui cultivent ces états d'esprit-là, ça met aussi en relief les moments où ils sont absents. Plus on passe du temps à cultiver compassion, bienveillance, joie empathique, plus on réalise aussi les moments où ces états ne sont pas là alors qu'ils pourraient l'être. En ce qui me concerne, pour être un peu plus concret, la compassion pour moi-même, de l'avoir pratiquée, ça m'a aussi aidé à me rendre compte du nombre de fois où, en réaction à une difficulté que je rencontrais, je m'infligeais ce qu'on appelle la subtile agression de l'auto-amélioration, c'est-à-dire de réagir à une difficulté que je rencontre par ah, il faut que je travaille pour pouvoir surmonter ça la prochaine fois, il faut que je sois plus au point, il faut que je sois plus ceci et plus cela. Alors qu'il est aussi possible, en réalisant que je vis quelque chose de désagréable, qui ne s'est pas passé comme je le voulais, de ah, etc. De faire preuve d'autocompassion pour moi. Et que ça ne diminue pas du tout mes possibilités de m'améliorer par ailleurs. Ça me permet simplement d'avoir une réaction gentille pour moi-même plutôt que d'être obsédé par la performance que je devrais être capable de fournir. La joie empathique, ça peut aussi être un révélateur très intéressant de nos petits moments d'envie pour d'autres personnes. Ou simplement, à défaut d'envie, du fait qu'on ne se réjouit pas forcément automatiquement des succès et des bonheurs des autres personnes, en particulier peut-être de certaines personnes plus que d'autres. Toujours sur un plan très, très égoïste, il ne s'agit pas d'autre chose que de nous-mêmes, donc de pouvoir profiter des occasions de se réjouir de quelque chose qu'on reçoit. Ces méditations formelles utilisent toutes des phrases. Vous avez un choix de phrases devant vous. Et il y a parfois l'impression qu'on ne peut pas vraiment changer quoi que ce soit en prononçant les phrases. C'est un peu la peur de la méthode Coué. Si c'était aussi simple que ça, s'il suffisait de répéter les choses pour que les choses changent, ça se saurait. Alors, question, sondage à la salle. Qui s'est déjà cassé quelque chose dans le corps, hein? Chez qui est-ce que c'est aujourd'hui réparé? Qui a déjà été blessé par des mots prononcés par quelqu'un d'autre? Qui les entend encore parfois? Et qui les prononce maintenant, aujourd'hui, quand vous les entendez? Donc, c'est cette idée que les phrases qu'on prononce à l'intérieur de nous ne peuvent pas avoir vraiment d'effet et d'impact sur nous, elle tient tant qu'on se pose uniquement la question des phrases qui nous font du bien. À partir du moment où on étend ce questionnement aux phrases qui ne nous font pas du bien, l'argumentation ne tient plus. Et en fait, une expression que j'avais beaucoup aimée dans la formation, parce que je trouve que c'est exactement ça. La compassion et la bienveillance, en tout cas envers soi-même, on a deux possibilités. Ou bien on se l'offre à soi-même, on se la donne à soi-même, ou bien on harcèle nos proches sans fin pour qu'ils nous la donnent. Et c'est peut-être plus simple de se la donner à soi-même un peu plus et de compter toujours, mais peut-être de compter un peu moins et d'attendre et de vouloir un tout petit peu moins que d'autres personnes nous disent ce qu'on aimerait en fait pouvoir se dire à nous-mêmes. C'est tout. C'est tout pour la théorie.